Il est 16h, vous êtes à l'écoute de France Culture. Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour Anne de Biran.
Alors nous embarquons pour une émission particulièrement incandescente.
Oui, une émission volcanique. On va faire un peu de géologie, tenez, aujourd'hui. Ils ont façonné le visage de notre planète depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, sur Terre ou sous la mer. Ce sont eux qui ont dessiné les continents, qui ont fait émerger des îles, qui ont aussi détruit et brûlé des millions de kilomètres de terre. C'est peut-être bien eux qui pourraient également rayer notre espèce de la surface du globe et nous faire passer de force dans une nouvelle ère géologique. Et malgré leur importance, ils sont peut-être même à l'origine de la vie. Et oui, et bien malgré tout cela, on sait encore bien mal prévoir l'activité des volcans. Et pour cause, on ne dompte pas comme ça un géant cracheur de feu. Volcans, ces éternels imprévisibles, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces géants cracheurs de feu, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents volcanologues. Sylvie Vergniol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Nous sommes également en compagnie de Jacques-Marie Bardin-Deceff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au CNRS et professeur à l'Université Paris-Sud Orsay. Je signale que la 5e édition, et oui déjà 5 éditions de votre manuel de volcanologie chez Duno est sortie au mois d'avril dernier en 2016. Alors nous sommes... Comme tous les jours, évidemment, vous pouvez nous suivre, faut-il encore le préciser, sur Twitter, sur le compte @laméthodefc. Je disais donc que nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, l'année vient à peine de commencer, et depuis le début de l'année, les autorités mexicaines sont en alerte face au regain d'activité du volcan Colima, le volcan Sinabung en Indonésie est entré en éruption, la caldeira des champs phlégréens au nord, aux portes de Naples, envoie des informations assez préoccupante. Une partie d'Hawaï s'est effondrée sous l'océan à cause du volcan Kilauea. Et le 30 décembre, on a enregistré une autre éruption en Alaska. Et j'en oublie certainement. Bref, volcanologue, c'est un peu le même rythme que médecin urgentiste, mais pour la Terre, Jacques-Marie Bardin-Deceff.
Oui, c'est ça. C'est que la Terre vit à son rythme géologique, mais également humain. Il y a 50 éruptions par an en moyenne. Donc 2017 est bien parti. C'est vrai que sur tous les continents, il y a des volcans en éruption. Alors parfois dans des régions, comme vous l'avez dit, désertiques, donc pas de gros problèmes à part peut-être l'aviation, mais également dans des régions peuplées, Indonésie, Mexique. Et là, donc bien sûr, nos collègues sont sur le qui-vive pour surveiller tout ça et protéger les personnes menacées.
Sylvie Vergniol, être volcanologue, c'est être au chevet de la planète, prendre son pouls en permanence en attendant la moindre éruption quelque part dans un coin du globe.
Disons qu'il y a plusieurs types de volcanologues. Il y a des volcanologues qui vont effectivement être toujours prêts à venir, à intervenir, à aider avec des instruments, avec des techniques. Et puis il y a des gens qui vont travailler beaucoup plus en amont, qui vont essayer de faire du travail de plus longue durée pour essayer de prévoir ou de comprendre les volcans. Et c'est aussi un aspect de la volcanologie.
Alors on va parler dans quelques instants de votre métier, de ce métier de volcanologue, qui est un métier à large spectre, dira-t-on. Mais avant ça, je voulais vous demander à l'un et à l'autre, quel est le volcan qui, au cours de votre carrière, vous a le plus impressionné, touché, qui vous a le plus interrogé, je ne sais pas, Jacques-Marie Bardin-Deceff?
Si on prend récemment, comme vous l'avez dit, le Sinabung en Indonésie est extrêmement violent. Donc j'y suis allé il y a un peu plus d'un an et il y a des nuées ardentes qui sont terrifiantes, des nuages brûlants qui se propagent à plus de 100 km à l'heure, qui détruisent tout, très impressionnante. Et puis un coup de cœur que j'ai eu à plusieurs reprises, je suis allé 3 fois et j'ai jamais été déçu, c'est à Hawaï, le Kilauea, que vous avez également cité en début d'émission.
Et pour vous, Sylvie Vergniol, votre volcan de cœur?
Disons que moi je fais des mesures sur les volcans, donc je peux pas aller sur des volcans trop dangereux, évidemment, sinon on est trop loin. Et donc, j'aime beaucoup les volcans du Vanuatu, qui sont près de la Nouvelle-Calédonie et qui sont actifs en permanence. Et c'est très impressionnant, ça sent très fort, et le son est très très fort, les explosions sont fréquentes, on voit la lave sortir à grande vitesse, c'est vraiment un spectacle très...
Ce sont toujours des histoires d'amour un peu terrifiantes quand on est volcanologue, quand on tombe amoureux d'un volcan comme ça.
Bah forcément, il y a toujours du danger. Maintenant, après, ça dépend ce qu'on veut faire, si on veut faire des mesures, ce qu'on cherche à faire.
Alors justement, parlons de ce métier qui est le vôtre, volcanologue. On dit bien volcanologue et non pas vulcanologue. J'en ai fait l'erreur tout au long de cette semaine en annonçant cette émission. Parce que vous ne passez pas tout votre temps à marcher justement dans des combinaisons ignifugées à quelques centimètres de la lave qui coule. C'est un métier assez vaste et c'est surtout un métier, une discipline assez récente, Jacques-Marie Bardintzeff, la volcanologie au sens où on l'entend aujourd'hui.
On peut dire quand même que les premières observations étaient faites par Pline l'Ancien il y a 2000 ans, mais c'est vrai que la vraie volcanologie a commencé avec le XXe siècle, on va dire avec l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Alfred Lacroix a fait des premières observations très précises, un livre chez Masson qui fait toujours autorité, et c'est vrai qu'elle a eu également des gros progrès après la Deuxième Guerre mondiale, et donc elle a, on va dire, depuis 50 ans, elle a extrêmement progressé, et c'est une vraie même révolution.
On l'a entendu, hein, quand on parle de volcans, on parle de géants cracheurs de feu, pendant très longtemps, il y a une forte dimension mythologique liée aux volcans, qui fait qu'avant de s'intéresser à eux et de les étudier, on les craint surtout tout au long de l'histoire.
Oui, par exemple, oui, dans beaucoup d'endroits, le Kilauea à Hawaï ou Yasur, par exemple, c'est vraiment le dieu vient des entrailles. Et donc, on le respecte, on fait des offrandes à Hawaï, on envoie des fleurs, de la nourriture.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui, oui. Oui, oui.
Et c'est donc au début du XXe siècle, vous venez de le dire, la volcanologie arrive en même temps qu'on commence à comprendre finalement la mécanique terrestre et la tectonique des plaques. Les deux choses sont à peu près simultanées.
Oui, 1902, la montagne Pelée fait une éruption majeure. 1912, Wegener propose sa théorie révolutionnaire de la dérive des continents qui plus tard sera élargie et complétée en tectonique des plaques. Donc vraiment, on se rend compte que la Terre est vivante, que la Terre bouge, que les continents se déplacent, qui semblait tout à fait étonnant. Et le volcanisme, finalement, a une place importante dans la géologie. Ce n'est pas anecdotique.
Alors il faut dire que effectivement le volcanisme est lié à la tectonique des plaques. Aujourd'hui les volcans apparaissent principalement dans trois endroits, sur les rifts océaniques, sur les zones de subduction et sur les points chauds. Vous pouvez nous expliquer, juste rappeler en quelques mots pour qu'on ait le corpus idéologique de base pour comprendre ensuite comment les volcans se forment, Sylvie Vergniol.
Ben, au niveau des points chauds comme à Hawaï ou le Piton de la Fournaise à l'île de la Réunion, c'est vraiment quelque chose qui vient de très très profond de la Terre, à la limite entre le noyau et le manteau. Ça, c'est un premier contexte, donc une remontée d'un volume énorme qui stagne à différents niveaux dans la croûte terrestre avant d'arriver en surface. Après, en zone de subduction, c'est tous les volcans très très explosifs, donc ces zones de compression.
Les zones de subduction, c'est les zones où une plaque tectonique passe sous une autre et donc il y a des frictions.
Voilà,
de
c'est ça. Et il y a de la friction, donc de l'échauffement, génération de magma qui peut aussi se mélanger avec des roches encaissantes. Enfin, donc ça fait du volcan explosif. Il y a tous les volcans sous-marins aussi qu'il faut pas oublier parce que ça contribue énormément au refroidissement de la Terre parce que les volumes sont assez colossaux. Et c'est quasiment en continu.
Aujourd'hui, je le disais en introduction de cette émission, comment s'organise le travail en volcanologie? C'est un travail complexe, c'est un travail extrêmement interdisciplinaire. On n'est pas que volcanologue, on est pétrographe, minéralogue, sédimentologue, géochimicien, on est toutes ces choses-là à la fois.
Oui, alors effectivement, comme l'a dit Sylvie, il y a l'aspect théorique qu'il faut bien comprendre comment le magma prend naissance vers moins 100 km par fusion du manteau terrestre, comment il va monter, comment il va se transformer, comment il va évoluer, comment il va sortir sous différentes façons. Donc sans arrêt, on progresse justement par comme connaissance des roches, la pétrographie, connaissance des minéraux, la minéralogie, de la physique, la géophysique, de la chimie, la géochimie. Puis également, il y a des observatoires qui sont, on va dire, au pied ou face au volcan, où là, on observe les volcans qui sont en crise, qui sont en éruption et qui ont donc ausculté, palpé, un petit peu monitoré comme un malade, un petit peu par un docteur. Donc le volcanologue a des capteurs, peut en profiter et interpréter les signaux souterrains qui pourraient traduire la montée du magma et une éruption imminente.
Quelle est aujourd'hui, quelle est la part de travail d'anticipation et quelle est la part de travail à proprement parler de laboratoire et d'analyse dans le travail du volcanologue, Sylvie Vergniol?
Je ne sais pas ce que vous, qu'est-ce que vous voulez dire par anticipation, en fait. Vous voulez dire prévision
de
des
prévision,
éruptions.
De prévision des éruptions.
Ah oui, d'accord. Donc la partie prévision des éruptions, comme l'a dit Jacques-Marie, en fait, il y a tout un aspect mesure, surveillance en continu. Et quand les signaux commencent un peu à s'emballer, alors les déformations du sol, les mouvements des ondes dans le sol, les gaz volcaniques. Donc les gens commencent à se dire qu'il va y avoir une éruption. Bon, alors le problème de ces techniques-là, c'est que c'est plutôt sur des échelles de temps d'un an et de quelques mois. Donc on n'arrive pas à faire des choses beaucoup plus rapprochées, vraiment, qui soient très utiles et applicables à la population au jour d'aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'on n'y arrivera pas, mais au jour d'aujourd'hui, on en est là.
Et vous pouvez être encore surpris sur des échelles plus courtes par une éruption qui n'a pas été prévue, qui n'a pas été anticipée.
Ah oui, il y a des tas d'exemples d'éruptions, par exemple, entièrement gazeuses, parce que là, il y a très peu de précurseurs, enfin, ou des précurseurs qui sont trop faibles pour qu'on les enregistre avec nos techniques. Hein. Et donc, il peut y avoir des accidents à cause de ça, oui, bien sûr.
Jacques-Marie Bardantsev, quels sont les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui dans votre panoplie vaste, comme on vient de l'entendre, de volcanologue? Avec quel type d'outils travaillez-vous pour sonder les entrailles de la Terre?
Alors, pour étudier, par exemple, les minéraux et les roches, on a des appareils qu'on appelle des microsondes pour étudier la chimie des roches, chimie des minéraux, étude des gaz également. Ça peut être des éléments chimiques, on étudie des éléments isotopiques. Pour le suivi de montée du magma, c'est bien sûr des sismographes qui enregistrent les mouvements du magma en profondeur. Ça peut être des lasers ou des GPS très précis qui mesurent les déformations des volcans, car le volcan il gonfle un petit peu, de l'ordre de quelques millimètres quand le magma pousse dessous. Ça peut être des mesures géophysiques, des champs magnétiques, des champs électriques, des champs gravimétriques, des champs thermiques, des mesures in situ, puis également effectivement des mesures de gaz, de température, également des mesures de source, de débit, de pH, de température, donc plein de données et qu'il faut un petit peu collecter pour en faire un bilan et voir si le volcan évolue vers une éruption ou au contraire est stable ou régresse. On le suit un peu comme un médecin qui suit peut-être un bébé qui va naître.
Ah, vous êtes plus dans l'image de l'obstétricien, moi j'étais plus dans l'image du médecin urgentiste tout à l'heure.
Oh, les deux, mais effectivement c'est joli aussi de penser à une naissance.
Aujourd'hui, donc, on a dit, hein, les trois grandes zones d'activité volcanique, ce sont les zones d'accrétion, les zones de subduction et les points chauds. Si je comprends bien, les zones d'accrétion et de subduction, on voit bien ces endroits où la terre, où les plaques bougent, donc on comprend qu'il y a de l'activité volcanique. Et pour les points chauds, c'est moins clair, hein, Sylvie Vergniol.
Non, c'est pas que c'est moins clair, c'est juste que la zone de production initiale du magma, la zone qui se déstabilise et qui monte parce que c'est plus léger, est très très profonde. Donc on a des informations très indirectes, on a beaucoup de modélisation, besoin de beaucoup de modélisation pour comprendre.
Vous travaillez aujourd'hui beaucoup sur des modèles informatiques, sur justement de la modélisation, parce qu'on comprend bien que quand on arrive sur zone, un volcan c'est beaucoup de pression, c'est très instable, qu'il est difficile d'interagir directement avec le volcan sous peine de modifier ses équipes de pression et éventuellement de provoquer des choses, non ?
Disons que dans les approches, effectivement, il y a des gens qui font de la modélisation, donc qui décident d'un processus physique ou chimique qu'il faut modéliser, qui rendent des équations, puis qui compare avec des données pour voir comment ça peut marcher pour expliquer le volcan. Mais il y a aussi des gens qui font des expériences en laboratoire, qui ont des volcans en miniature, en plastique, avec différentes choses qu'ils veulent tester pour appliquer ensuite au volcan. Donc il y a quand même les deux approches. Hein.
C'est toujours très délicat d'intervenir ou quand on sent qu'on arrive sur un volcan qui rentre en éruption, qui arrive proche d'une éruption, on peut plus trop intervenir par tomographie ou par ce type de procédé-là. Jacques-Marie Bardantsev, c'est-à-dire qu'on est on est précisément sur quelque chose qui peut sauter à tout instant.
Oui, à un moment donné, effectivement, quand on pense qu'il y a une éruption qui peut arriver dans les 24 heures, ça peut évoluer très très vite. Puis quand l'éruption commence, eh bien effectivement, elle est masquée. Il y a des cendres, il y a des gaz. Donc c'est vrai que l'œil humain ne peut pas tout suivre. Alors par exemple, on a des satellites, heureusement, qui peuvent faire des images qu'on peut suivre quasiment en live, en direct. Si c'est des images infrarouges, l'infrarouge ou les images radar, on peut voir à travers des gaz qui sont opaques. Donc voilà, il faut un petit peu voir à travers ce qui se passe. Puis à ce moment-là, effectivement, il faut suivre un petit peu, on va dire, quasiment minute par minute, parce que les choses vont très vite. Et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des crises sismiques. On peut avoir d'un seul coup, en une journée, 1000 événements sismiques qui se succèdent, c'est-à-dire toutes les minutes quasiment. Donc ça va très vite, c'est très impressionnant.
Mais quand Sylvie Vergniaud parle, on parle des points chauds et qu'on dit que donc les chambres magmatiques sont très très profondes, on est à combien par exemple de kilomètres sous la surface?
Ah, pour la limite noyau-manteau, je me souviens plus du chiffre exact. C'est combien, tu te souviens?
2900 kilomètres, je crois.
Ah oui, c'est ça, 2900, oui.
Voilà, là pour le coup, comment est-ce qu'on peut aller voir à l'intérieur tout en restant à l'extérieur, c'est-à-dire sans sonde, sans rien? Quels sont les outils qui sont à votre disposition pour avoir accès à ces noyaux magnétiques qui sont extrêmement profonds?
Alors c'est vrai que le voyage de Jules Verne au centre de la Terre reste une anticipation, ça se restera pour toujours. Donc c'est des mesures, d'abord c'était les sismologues qui avec leurs sismographes ont montré qu'il y avait des parties de la Terre qui était liquide, qui était solide, qui avait des changements de discontinuité, c'était plus les mêmes types de roches, les mêmes densités, les mêmes températures. Donc on a une bonne idée maintenant de l'intérieur de la Terre, on sait comment elle est formée, donc un noyau au centre qui est un peu le jaune de l'œuf, un manteau un peu le blanc de l'œuf, puis autour une croûte fragile qui est la coquille, tout ça ça bouge et on a des mesures très précises de température, de densité. Et donc c'est vraiment quand il y a un endroit précis, des variations de température importantes, et bien il y a des processus qui se forment. Donc, par exemple, on peut avoir, une conduction de chaleur, on aura une convection. Donc, des roches peuvent bouger, même si elles sont solides, elles peuvent bouger très doucement, un peu comme un glacier qui avance. Donc, c'est des mouvements de l'ordre du centimètre par an, quelques centimètres par an. Mais ça fait que la Terre bouge sans arrêt et puis que des volcans peuvent naître profondément ou moins. Donc, c'est vrai que les points chauds, l'origine serait peut-être vers moins 2900 km, mais beaucoup de volcans prennent naissance à la limite de la lithosphère, de la sténosphère. C'est vers moins 100 km, c'est-à-dire moins profond que la distance Paris-Orléans. Donc c'est assez superficiel, paradoxalement.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h16, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons de volcanologie tout au long de cette heure en compagnie de Sylvie Vergniaud et de Jacques-Marie Bardintseff, deux éminents volcanologues, comme je le disais. Alors, on a l'image du volcanologue avec sa combinaison qui arpente des champs de lave qui coulent autour de lui, mais il y a aussi, on le disait également, le travail en laboratoire. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Vous êtes rendu à l'Institut de physique du Globe de Paris où travaille Sylvie Vergniaud et où on travaille notamment sur la nature des magmas.
Oui, et c'est avec Georges Boudon que j'ai essayé de comprendre le lien qu'il y a entre les différents types de magmas et les différents types d'éruptions. Georges Boudon, il est physicien à l'Institut de physique du Globe de Paris et il travaille sur la façon dont les magmas remontent d'un réservoir magmatique jusqu'à la surface. Il essaie avant tout de comprendre comment ce comportement des magmas dans les conduits d'un volcan va ensuite dicter la dynamique éruptive en surface. Vous savez, quand on rentre dans le bureau d'un volcanologue, on a un peu l'impression d'être sur les flancs d'un volcan avec de partout des échantillons prélevés aux quatre coins du monde. Georges Boudon, il m'a donc décrit ces échantillons et il m'a expliqué comment il les observe au microscope pour mieux anticiper ensuite les types d'éruptions en fonction des volcans.
Vous voyez, donc là on a des échantillons, alors je vais vous prendre un échantillon un petit peu gros, ça c'est un échantillon par exemple qui vient d'une éruption de la Dominique, donc voilà donc le type d'échantillon sur lesquels on va travailler. On peut avoir donc, vous voyez, des échantillons de dômes, alors c'est des fragments qu'on a échantillonnés, qu'on a sciés après, donc ce sont des échantillons, donc des fragments qui ont été projetés par le volcan, et puis après ces échantillons, eh bien, on va faire soit des lames minces, soit des sections polies. On va les broyer pour faire des poudres, par exemple ces poudres que l'on a ici, et ces poudres elles vont permettre de faire de la géochimie, d'analyser donc la roche, à la fois les éléments majeurs, les éléments volatiles, les éléments traces, etc. Et on va donc aussi regarder, donc je vais vous montrer un autre exemple. Donc voilà, on va faire ces petites sections polies, qui sont donc voilà ces petits fragments de roches que je vous ai montré, qu'on va scier, qu'on va imprégner dans de la résine pour que la résine rentre dans toutes les bulles, parce que vous voyez ces échantillons de roches volcaniques, ils sont poreux, ils sont pleins de bulles, de vésicules, et pour pouvoir les travailler, il faut remplir toutes ces bulles avec de la résine, et puis après on va les polir, et vous voyez, avec un poli qui est presque parfait, et c'est ça qui nous permet après de les analyser à la microsonde électronique ou de les observer au microscope à balayage.
Et là, déjà, rien qu'à l'œil nu, on voit qu'il y a des différences entre les natures de roches.
Bien sûr, il y a des différences, et justement justement, c'est ça qui nous permet donc de pouvoir comprendre donc les différences qu'il y a. Dans une même éruption, on peut avoir des différences donc de la cristallinité, de la vésicularité, des différences au niveau géochimique aussi. Et donc, c'est tout ça qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne donc une éruption, comment fonctionne un magma qui remonte de la surface, et de dire, voilà, tel magma, donc il est remonté comme ça, il a donné tel style éruptif, alors que tel autre magma, il est remonté, les gaz ont pu s'échapper dans le conduit, et donc du coup, il était moins explosif, et a donné un autre style éruptif. Par exemple, on a travaillé sur le problème de l'explosivité des dômes, et on a essayé de comprendre pour quelles raisons certains dômes, comme par exemple celui de 1900 de la montagne Pelée, avaient eu ces grosses explosions extrêmement dévastatrices, meurtrières, et pourquoi d'autres dômes ne produisaient pas ce type d'explosion. Et donc justement, par toutes ces analyses géochimiques, texturales, qu'on a pu essayer de caractériser donc les paramètres qui vont permettre donc comprendre pour quelles raisons ce magma a donné ce type d'explosion et pourquoi un autre magma a donné un autre type d'explosion.
Tout l'objet de votre travail, c'est d'établir une typologie aussi vaste et complète que possible des types de magma pour pouvoir anticiper les styles d'éruption.
Bien sûr, alors quand on travaille sur une éruption, sur le magma d'une éruption, et ben après on va essayer d'extrapoler donc à d'autres volcans, et par exemple sur ce problème d'explosivité des dômes, et ben on travaille donc sur, on a travaillé sur plusieurs dômes, Montserrat, sur des dômes d'Amérique centrale. On travaille actuellement avec un collègue russe sur des éruptions du mont Lamington en Papouasie. Il nous a envoyé des échantillons et on travaille dessus. Vous voyez, donc après, on va essayer de corréler tout ça et d'essayer de comprendre donc comment, par exemple, pour le cas des dômes, comment ces dômes fonctionnent, quel que soit donc le volcan sur lequel ils se produisent. Alors là, on a un laboratoire, vous voyez, qui nous permet de préparer, donc vous voyez, encore beaucoup d'échantillons un petit peu partout, qui nous permet donc de préparer les échantillons, donc qui vont être après analysés, qui vont être de les polir et de regarder les inclusions. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de microscopes qui vont permettre de regarder donc les inclusions qui sont piégées dans les cristaux. Ici, donc voilà, ces fameuses inclusions vitreuses, vous voyez, donc ça, on a un cristal. Et à l'intérieur, donc, on a cette petite inclusion là, qui est du liquide magmatique qui a été piégé donc lors de la cristallisation. Et ce liquide magmatique, c'est lui qui va nous permettre donc de connaître les conditions donc qui régnaient dans le réservoir, c'est-à-dire la composition du magma, la teneur en volatile, et maintenant les mêmes conditions de pression et de température. Alors ça, c'est y a pas l'échelle là, mais ces bulles, elles font quelques dizaines de microns. Donc à partir de ces petits fragments là, vous voyez ce qu'on va regarder ? On va regarder la forme des bulles, voyez. Voilà, par exemple, des formes, voyez, de bulles. Donc ça, c'est une éruption donc du volcan Ambrim, donc au Vanuatu. Et on va pouvoir donc déterminer donc le comportement des gaz, donc la remontée, par en étudiant donc ces formes de bulles. Et puis on a tout le liquide magmatique, voyez, qui est tout autour. Et donc on va pouvoir analyser ce liquide magmatique, déterminer donc la composition du liquide, le comparer donc à la composition des inclusions vitreuses et de faire des bilans, savoir ce qui reste dans le liquide, ce qui est parti, notamment en termes de volatiles, savoir la quantité d'eau, par exemple, qu'il y a dans l'inclusion elle-même, la quantité d'eau qui reste dans ce verre, donc qui a été refroidi brutalement.
Est-ce que, parce qu'une éruption a été d'un certain type, elle sera forcément du même type après ?
On peut avoir, donc, sur un volcan, donc, des types d'éruptions très variés. Et par exemple, si on regarde, par exemple, les volcans des Antilles ou les volcans de zones de subduction, eh bien, on va avoir des volcans qui vont donner des éruptions pliniennes. L'éruption plinienne, c'est ce qui s'est produit, par exemple, au Vésuve, qui a enseveli les villes de Pompéi et d'Herculanum en l'an 79. On peut avoir des éruptions ad hoc. On peut avoir des éruptions donc, qui vont faire interagir de l'eau superficielle avec le magma qui remonte. En fait, on peut avoir des tas d'éruptions différentes à partir d'un magma qui est toujours le même pratiquement au niveau du réservoir et qui va, ce magma, il va avoir un comportement différent. Justement, les gaz, la façon dont le magma va remonter les conduits, eh bien, ça va pouvoir changer la dynamique éruptive. Et à partir d'un même magma, au départ, des mêmes conditions pré-éruptives, on peut avoir des types d'éruptions extrêmement différentes. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de comprendre quels sont les paramètres qui peuvent changer au cours de la remontée d'un magma.
Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp. Des réactions, je voulais prendre des notes à l'écoute du reportage, Sylvie Vergnol.
Ben, c'est un collègue du même institut que moi qui travaille au même étage que moi, donc je peux
donc
difficilement...
C'est familier.
C'est familier. Moi, je travaille aussi sur les bulles, mais j'en regarde l'aspect plus explosivité. Lui regarde l'aspect une fois que c'est piégé dans les fragments. Moi, je regarde quand ça explose à la surface, je les mesure avec le son. Donc, voilà.
Jacques-Marie Bardantseff.
Ben, effectivement, moi aussi, je connais bien Georges Boudon. On a commencé notre carrière ensemble en 1979 aux Antilles, à la Soufrière de Saint-Vincent. Mmh. Voilà, donc, c'est rappel, plein de bons souvenirs. Alors, quand il parle des Antilles, on a des souvenirs communs assez impressionnants là-bas.
Par exemple, racontez-moi un souvenir.
Ben, par exemple, à Saint-Vincent, il y avait une ardente. D'ailleurs, il y avait le couple Kraft, enfin, avec Katia Kraft qui était là.
Mmh. Et on devait dont aller... on parlait tout à l'heure hors antenne.
Oui, exactement, on en parlait hors antenne. Mmh. Et on devait aller donc sur les nuits ardentes, qui, en fait, il y en avait tous les deux jours. Donc, on passait entre les nuits ardentes pour aller voir, prélever les dépôts. Et à un moment donné, on a eu le chemin qui a été coupé par un cobra qui ne voulait pas nous laisser passer. Quoi. Donc, il a fallu ruser, se mettre d'accord. Puis, bon, on a pu passer, mais on disait, s'il nous attend en retour, comment va-t-on faire? Enfin, voilà, c'est parfois, sur le volcan, il y a d'autres dangers qui ne sont pas forcément liés au volcan.
Qui ne sont pas forcément liés à la lave.
Il faut en tenir compte aussi. Ouais.
Alors, reparlons un peu des volcans. Ce qui est intéressant, entre autres, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce reportage, mais c'est qu'on entend qu'il y a en fait, plusieurs types d'éruptions et qu'un même volcan peut avoir différents types d'éruptions. C'est cela ?
Oui, c'est juste. Par exemple, le Vésuve est connu pour ses éruptions pliniennes qui sont très célèbres parce que ça détruit Herculanum et Pompéi. Mm-hmm. Mais il a aussi une phase d'activité basaltique, c'est-à-dire de volcans assez fluides avec des fontaines de lave, mm-hmm. c'est-à-dire des jets de magma quelques centaines de mètres, des lacs de lave, le magma stagnant dans un lac. Et donc ça, on connaît pas énormément cette activité-là.
Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'une, en deux mots, une éruption plinienne, par exemple ?
Ben, c'est des colonnes de cendres et de blocs qui vont jusqu'à plus de 15 km de hauteur dans l'atmosphère. Ça, c'est la définition.
Il y a donc différents types d'éruptions, mais en revanche, Jacques-Marie Bardanzet, il y a deux grandes catégories de volcans qui, elles, sont bien distinctes.
Alors, catégorie de volcan, peut-être pas, mais catégorie d'éruption, oui. Mmh. Hein. On va distinguer les éruptions qui font des coulées de lave, qu'on appelle les éruptions rouges, qui sont laviques, spectaculaires, très belles. Et paradoxalement, c'est les moins dangereuses pour les humains. Ça détruit, bien sûr, des habitations, des cultures, des constructions, donc des gros dégâts matériels, donc coûteux pour une économie, surtout pour un pays pauvre. Mais en général, les gens ont le temps de se sauver, ils marchent plus vite qu'avance la lave. Puis la deuxième catégorie, c'est les éruptions explosives qu'on appelle grises, alors qu'ils projettent des cendres, des nuées ardentes. Mm-hmm. Donc ça va très vite, ça va très loin, ça recouvre des grandes surfaces. Et effectivement, une nuée ardente qui va à entre 100 et 500 km à l'heure, eh bien, toute fuite est illusoire. Donc si les volcanologues n'ont pas pu prévoir à temps l'éruption, eh bien, on a 100% de victimes. Mm-hmm. C'est ce qui s'était passé à la montagne Pelée en 1902. Il y avait 28 000 morts, mm-hmm. deux survivants miraculés. Mmh. Donc heureusement, depuis, il y a eu des gros progrès, puisque l'éruption de la Soufrière de Montserrat, qui a eu lieu en 95-97, 100 ans après, eh bien, on a pu évacuer 8000 personnes, il y a eu quand même 20 victimes de trop, mais on a inversé la tendance par rapport à un siècle précédent.
Il y a eu tout de même l'éruption du volcan Colombien en 85, qui a été extrêmement meurtrière aussi.
Oui, alors c'est vrai, c'est pour l'instant la dernière très grosse éruption meurtrière. Il y a eu 25 000 morts au Nevado del Ruiz, suite à des coulées boueuses qu'on appelle des lahars. L'année suivante, en 1986, il y a eu 1700 morts asphyxiés au Cameroun, au lac Nyos, par des gaz. Et depuis, les grosses éruptions, c'est-à-dire le Pinatubo, le Montserrat, ont été plutôt bien gérées. Donc, il y a eu moins de 1000 morts à chaque fois, et souvent des morts indirectes liées à des maladies, à la foudre et autres. Donc, pour l'instant, il y a eu quand même des bons résultats et on est optimiste. On n'est pas à l'abri d'un...
Voilà,
les prévisions ont fait de gros progrès.
On parlera des conséquences des éruptions. Je voudrais qu'on continue à parler un peu des dynamiques éruptives et des mécanismes éruptifs, parce qu'on les connaît en grande partie, mais on va voir avec vous qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur ces volcans. Par exemple, si je pose une question de béotien, c'est que le magma, celui que vous avez décrit tout à l'heure, qui est donc dans le manteau, la remontée du magma du manteau, il est a priori le même partout. Comment se fait-il qu'il sorte différemment en fonction des volcans, en fonction des endroits, Sylvie Vergniol?
Ah ben comme on l'a expliqué, la zone de formation de ces magmas est différente. Le contexte de subduction, c'est-à-dire les pressions qui s'exercent sur le magma ou la friction, sont aussi complètement différentes. Et il y a le fait que dans les volcans de subduction, donc ceux par exemple de tout le Pacifique, comme les volcans du Japon, eh ben ça, il y a enrichissement des magmas en silice. Et la silice est connue pour avoir un facteur où le magma devient de plus en plus visqueux. C'est-à-dire c'est du miel vraiment. très très visqueux. Et ça, ça fait des explosivités colossales.
Jacques-Marie Bardantzeff, tous ces mécanismes-là, ils sont vraiment bien connus, ou est-ce qu'il y a encore des interrogations sur les mécaniques qui font en sorte que les éruptions soient différentes à différents points, même parfois sur la même chaîne volcanique?
Bon, c'est assez bien connu, on connaît la composition du manteau, on peut calculer son taux de fusion qui est de l'ordre de 5 à 15%, donc le magma qui en sort, on connaît également sa composition. Ce magma, au départ, il est déjà un peu différent selon les endroits, comme l'a dit Sylvie, mais en plus il peut évoluer différemment dans la chambre magmatique, il peut donc cristalliser en partie, il peut se différencier, donc former des magmas différents. Donc à partir d'un manteau qui est plus ou moins homogène, mais en fait, dans le détail, il est hétérogène, on peut obtenir différents magmas qui eux-mêmes en donnent chacun d'autres. Donc, on a peut-être une trentaine ou une quarantaine de noms de roches. Donc, c'est ce qui fait le charme de la volcanologie, ce qui fait sa complexité, et effectivement, ce qui fait qui se pose encore des problèmes, et qui a encore, bien sûr, des progrès à découvrir, à faire.
Est-ce qu'on connaît précisément les mécanismes de formation d'une chambre magmatique? Est-ce qu'elles sont déjà présentes et qu'elles se remplissent au fur et à mesure? Est-ce qu'elles se créent au fur et à mesure, Sylvie Vernial?
C'est un débat qui est d'actualité, en fait. Les gens sont pas du tout d'accord. Le problème des champs magmatiques, donc on pourrait les imaginer. Alors, comme...
redire peut-être en un mot, pardon, ce que c'est qu'une chambre magmatique, en quelques mots, rapidement, pour nos auditeurs.
Excusez-moi, c'est un réservoir...
C'est tout excusé, voyons.
C'est un réservoir où le magma se stocke, où il se prépare pour une éruption, grosso modo, avant d'arriver en surface. Donc,
On est à quelle profondeur? Ça peut être à différents niveaux de profondeur,
une chambre magmatique? Il y a différents types de réservoirs. Donc, il y a ceux qui vont être autour de 15 km, 10 km, qui sont dits des réservoirs profonds, et puis des réservoirs plus superficielle à quelques kilomètres, mais ça dépend beaucoup des volcans. Il y a même des éruptions qui oublient de passer par les réservoirs et vont directement à la surface. C'était le cas à l'Etna en 2002, et ça a été une éruption où le magma est remonté en quelques heures de 15 kilomètres de profondeur. Ça a été terrible, ça fait une très très grosse éruption par exemple.
Et alors donc, sur ce fameux débat sur ces chambres magmatiques, sont-elles préexistantes ou sont-elles créées à mesure d'une poussée de magma, pour des raisons que vous allez nous expliquer?
Oui, donc disons qu'aujourd'hui on pense plutôt que c'est des ensembles de conduits, que le magma arrive dans des structures relativement petites et se superpose, ça s'accumule, c'est comme les draps d'un lit, il y en a plein, une grosse pile, et puis tout peut fondre après, ça c'est la vue actuelle, quoi.
Jacques-Marie Bardantzeff, sur ce débat entre l'œuf ou la poule, si je puis me permettre cette comparaison-là.
Ah bah, au début, il faut bien qu'un volcan commence, donc quand il va naître, au début, effectivement, le magma va se mettre où il peut, comme il peut, dans les fractures, petit à petit, il va quand même se faire sa place, mais une fois qu'un volcan fonctionne bien, parce qu'un volcan peut vivre 100 000 ans, 1 million d'années, voire plus, à ce moment-là, la chambre magmatique, on va dire, existe quand même, alors bien sûr, elle se remplit, elle se vide, elle se vidange, etc. Mais on va dire qu'elle existe, elle peut d'ailleurs se retrouver par les ondes sismiques, donc sous un gros volcan, en général, il y a une chambre magmatique vers moins 15, moins 30 km, et les tailles, c'est souvent plusieurs centaines de kilomètres cubes, voire plusieurs milliers de kilomètres cubes. Les très grandes chambres magmatiques, par exemple sous Yellowstone, elles font à peu près 70 km par 30, par 10. Vous voyez, c'est énorme.
C'est l'inverse de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a la petite chambre magmatique en haut et l'énorme réserve en dessous, c'est ça?
Voilà, mais à la fin, on a vraiment un petit volcan au-dessus et beaucoup de magma en dessous.
Est-ce que ces systèmes de chambres magmatiques sont des systèmes ouverts ou ce sont des systèmes fermés? Est-ce qu'on sait ça bien, Jacques-Marie Bardantzeff?
C'est un peu les deux, justement. On dit souvent qu'une porte doit être ouverte ou fermée, c'est pareil pour une chambre. En fait, une chambre en permanence se réalimente, et souvent d'ailleurs il y a des mélanges de magma qui sont explosifs, parce que quand on a un magma qui a déjà évolué, qui est, mettons, plus ou moins chaud, puis arrive un magma très différent en viscosité, en température, il peut y avoir des différences de température, par exemple de 200 degrés, un magma de 1100 degrés qui rentre dans une chambre où il y a des magmas à 900 degrés, pas la même composition chimique, à ce moment-là il y a des mélanges et des bulles se forment. On a entendu tout à l'heure un reportage, et ces bulles peuvent se réunir et puis en fait faire à la fin une sorte de mousse de lave qui va exploser, qui va faire qu'on passe d'un schéma d'une éruption rouge effusive à une éruption grise explosive.
Est-ce qu'on connaît aussi exactement ce qui va être l'élément déclencheur dans une éruption, une fois que la chambre magmatique est remplie, que le niveau de pression augmente, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça crève la surface, entre guillemets, semi-verniale.
Je pense qu'il faut le voir à l'envers, c'est-à-dire que l'édifice volcanique a une résistance à la fracturation, donc il supporte une certaine quantité de pression, et puis on passe un seuil critique et il ne supporte plus. Et là, s'injectent ce qu'on appelle dans le langage des dikes, c'est-à-dire des conduits qui se forment, la lave est amenée à la surface, et comme c'est très surpressurisé avant de déclencher une éruption, et ben ça part en catastrophe avec le gaz qui se forme, qui font des grosses bulles.
Est-ce qu'on sait que si ces éruptions, elles sont systématiquement endogènes, c'est-à-dire qu'il n'y a besoin de rien d'autre, ou est-ce que c'est un mouvement de la croûte terrestre? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un petit apport d'énergie pour que d'un seul coup, tout se mette à exploser?
A priori, il se débrouille tout seul pour faire les éruptions, mais les mécanismes des éruptions sont des choses quand même très très complexes, parce qu'il rentre à la fois une injection possible de liquide, on ne sait pas en quelle quantité, on ne sait pas bien la forme de réservoir, on ne sait pas bien effectivement, comme l'a dit Jacques-Marie, c'est peu homogène, alors il peut très bien avoir des magmas de viscosité assez différente, c'est-à-dire comme avoir du miel et de l'eau, et ben ça va se comporter très différemment, des gaz qui vont être de chimie différente, qui vont se comporter aussi différemment.
Et puis parfois aussi l'interaction de réservoirs d'eau qui, j'imagine, vont jouer sur la température ou sur le niveau de pression à proximité de ces tuyaux, de ces chambres magmatiques.
A priori, ce genre d'éruption a un nom, c'est connu comme étant des éruptions phréatiques ou phréatomagmatiques, s'il y a un peu de magma frais à l'intérieur. Donc c'est une classe d'éruptions, elles sont quand même assez mal connues à mon avis, parce que ce qui déclenche est quand même assez peu connu.
Mmh. Comment est-ce qu'on fait pour étudier ces mécanismes-là? Parce qu'encore une fois, on est loin sous la surface de la Terre, c'est une tuyauterie complexe, avec des niveaux de pression et de température très élevés. Comment est-ce qu'on arrive à regarder en dessous la complexité de ces réseaux, de ces chambres, de ces tuyaux qui débouchent à la surface, Jacques-Marie Bardin?
Alors on a des témoins directs, c'est quand même les roches volcaniques, enfin, c'est-à-dire les magmas qui sortent, qui se refroidissent, qui forment des roches, donc ou des cendres, ou des, ce qu'on appelle des téfras, c'est-à-dire des bombes volcaniques, des ponces volcaniques. Donc ça, on peut les étudier, on a entendu tout à l'heure ce qui se passe dans un laboratoire, donc on peut faire l'analyse chimique de ces minéraux, parfois c'est du verre même, hein, parce que ça s'affiche tout de suite. Donc d'après les compositions chimiques des minéraux et des verres, d'après l'équilibre entre certains ions, certains atomes, par exemple du calcium, du magnésium, qui vont plutôt dans un minéral, plutôt dans le verre, on peut recalculer les températures et les pressions. Donc on a ce qu'on appelle des thermomètres géologiques, des baromètres géologiques, et on peut dire cette roche, elle s'est équilibrée, mettons, à tant de telle pression, on parle de pascal ou de kilobar, à telle température, ça peut être 1300 degrés, 1400 degrés. Donc on a quand même un accès direct.
Ça c'est de l'étude a posteriori.
Voilà, et puis effectivement, sinon, bah après, alors soit il faut modéliser, hein, donc c'est ce que racontait Sylvie, hein, elle est spécialiste. Donc à ce moment, il faut dire effectivement, on va prendre telle, on peut reprendre une roche, on peut la refondre, on peut dire qu'est-ce qu'elle fera à 1300 degrés, on peut lui faire subir des pressions. Donc il y a des laboratoires spécialisés avec des sortes de cocottes minutes qui font subir à la roche des pressions de température telles qu'elle refonde et qu'elle refond du magma et voir ce qui se passe. Et puis on peut également, par la physique, voir si les séismes donnent telle profondeur, donc voir la taille de la chambre, la taille des dikes, des filons de alimentation. Donc on complète un peu tout ça. Et ce qu'il faut bien dire aussi, et je crois qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que ce n'est pas le même volcanologue qui fait tout ça. Nous sommes différents spécialistes, nous collaborons les uns avec les autres, on apprend de chacun, certains s'intéressent plus à la profondeur, à la modélisation, d'autres à ce qui se passe au milieu, d'autres à la pétrographie, d'autres à la physique, à la chimie. Et c'est vrai qu'on va dire qu'il y a autant de spécialistes en volcanologie que peut-être qu'en médecine pour connaître le corps humain.
C'est cette complémentarité qui permet de modéliser des immenses chambres comme celles qui sont sous Yellowstone, parce que évidemment on ne peut pas avoir un accès ou une vision directe avec un regard, j'en sais rien, par infrarouge.
Ben disons que c'est tout le problème de la discipline. Effectivement, ce que l'on voit à la surface, c'est vraiment la partie de l'iceberg, la toute petite partie. Mmh. Tout est en profondeur, donc après, il faut modéliser avec les contraintes que l'on peut avoir.
Et alors, qu'en est-il de cette autre activité volcanique qui est encore plus difficile d'accès et donc qui est pourtant très prometteuse et dont on imagine beaucoup beaucoup de choses? Ce sont les sources hydrothermales aujourd'hui. Est-ce que c'est un milieu qu'on connaît mieux, ces sources volcaniques qui sont au milieu des rifts et dont on imagine qu'elles ont pu être créées les premières briques de la vie?
Alors là, c'est quand même une discipline qui démarre, hein, parce que c'est quand même très très... Évidemment, l'accès est difficile, ça commence à venir, etc. Bon, c'est le démarrage.
Jacques-Marie Bardanzeff, sur ces sources hydrothermales, on commence petit à petit à en dévoiler un peu les secrets?
Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont d'ailleurs liés au volcanisme. Hein, donc, c'est des, là, on peut les analyser directement. Effectivement, c'est important. Mais c'est vrai que les principales, c'est tout ce qui se passe au niveau des océans. Donc, les dorsales médio-océaniques. Mmh. C'est-à-dire, ça se passe à moins 2500 mètres de profondeur ou moins 2000 mètres. Donc, c'est pas facile d'accès. On voit pas les éruptions. On voit effectivement qu'il y a des sources hydrothermales qui sont liées à tout ça. Il en sort des fluides, des produits. Il y a des dépôts avec ce qu'on appelle des fumeurs blancs, des fumeurs noirs. Donc, qui déposent du zinc, qui dépose du cuivre, qui dépose des métaux. Donc tout ça, effectivement, c'est assez, assez passionnant, c'est assez nouveau. Faut savoir qu'on n'a jamais vu vraiment une éruption sous-marine. Ça veut dire que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent être volcanologues, il y a encore plein de terrains vierges, même sur Terre, je ne parle pas des planètes, mais même sur Terre, il y a tout cet aspect volcan sous-océanique associé à l'hydrothermisme dont vous parlez, qui est passionnant. On a un premier balbutiement et on a besoin de jeunes volcanologues pour découvrir tout ça, pour défricher tout ça.
Écoutez, l'appel est lancé et il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent, donc on leur lance cet appel. La volcanologie, c'est un métier d'avenir et puis avec des filières nombreuses, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un mot peut-être pour dire, bon, les éruptions sont difficiles à prévoir, on l'a entendu. Est-ce qu'on sait pourquoi un volcan s'éteint? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné ça s'arrête? C'est la chambre magmatique qui est vide, elle se remplit plus, mais est-ce qu'on sait pourquoi, Jacques-Marie Varanzès?
Oui, bah effectivement, un volcan, c'est comme un humain, sa vie, ça naît, sa vie, ça meurt. On va dire, on va multiplier par mille. Donc nous, on vit 100 ans, quand tout va bien, un volcan, c'est 100 000 ans en moyenne. Donc une nuit de volcan, c'est souvent un siècle ou un millénaire. Alors effectivement, il faut savoir qu'un volcan est alimenté par une source. Et comme souvent les plaques se déplacent, souvent, eh bien, le volcan n'est plus au-dessus de sa source. Donc c'est un autre volcan qui prend la suite. Donc ça, c'est le cas des points chauds, par exemple. Dans d'autres cas, effectivement, c'est parce que les plaques qui s'écartaient bah, arrêtent de s'écarter ou elles coulissent plus ou moins vite. Donc c'est vrai que la tectonique des plaques, c'est une cause continue pour un effet discontinu de volcanisme. Et cette cause, eh bien, à l'échelle de 100 000 ans, d'un million d'années, il y a des changements qui se répercutent sur le comportement des volcans.
Est-ce qu'on sait, Sylvie Vergnol, s'il reste encore du magma liquide dans des chambres magmatiques, par exemple, sous le Massif Central, si on a un jour, peut-être pas nous, mais nos arrières, etc., petits-enfants, aura la chance de revoir le Puy de Dôme en éruption?
Ben disons qu'a priori, dans le Massif Central, c'est plutôt en train de s'éteindre. Hein. Ça donne pas des signes de se réveiller. C'est très surveillé, bien sûr. Mais bon, les signaux sont vraiment plutôt dans cette direction-là. Donc, on ne sait pas.
Mais il reste encore du magma liquide sous le Puy-de-Dôme?
Ah, sur ça, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est encore chaud. Est-ce qu'il est au stade liquide? Ça, je ne pourrais pas répondre.
J'ai trouvé un article qui dit qu'a priori, qui date de juin 2016, qui dit qu'il reste encore un peu de magma liquide sous la chaîne des puits, figurez-vous.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Danser, nous dansons souvent au bord du cratère, sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. En l'air, nous ne craindrons pas ni la poussière, ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. fin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère.
Sur un volcan de la Maison Tellier, c'est le choix musical de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Vous écoutez La Méthode Scientifique. Il est bientôt 16h45. Nous parlons des volcans avec Sylvie Vergniol, directrice de recherche CNRS à l'Institut de Physique du Globe de Paris, et Jacques-Marie Bardantseff, également volcanologue, chercheur associé au CNRS et professeur à l'Université Paris-Sud Orsay. Dans le quart d'heure qui nous reste, on va parler un peu de la prospective et puis surtout des conséquences. On a beaucoup parlé, il y a beaucoup de fantasmes comme toujours autour des volcans, de la dangerosité des super volcans. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui l'humanité pourrait un jour, est-ce que les volcans peuvent encore être dangereux, c'est-à-dire faire autant de morts que le volcan colombien ou c'était pas le Piton, excusez-moi, parce qu'on vient de parler du Piton de la Fournaise, l'éruption de 1902.
De la Montagne Pelée.
De la Montagne Pelée, tout à fait. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu des avancées de la volcanologie et de la capacité de prévision des éruptions, est-ce qu'on peut encore se retrouver dans des cas dramatiques avec plusieurs dizaines de milliers de morts suite à une éruption, Jacques-Marie Bardantseff?
Oui, alors je disais qu'on est optimiste, il faut rester modeste. Hein. C'est vrai que le volcan, c'est un système naturel, c'est pas un système exact, pas un système mathématique, donc on peut bien sûr avoir des mauvaises surprises, des imprévus. Alors vous parliez de super volcan. Alors qu'est-ce qu'un super volcan? C'est un volcan susceptible de faire des super éruptions. Donc qu'est-ce qu'une super éruption? Alors une super éruption, c'est une éruption qui est 1000 fois plus importante qu'une éruption importante déjà. Alors pour parler, on va donner un peu des chiffres, on va dire que moi souvent je dis à mes étudiants, au partir d'un kilomètre cube, l'éruption est importante.
On va dire un kilomètre cube de fumée, de cendre.
Un kilomètre cube de matériaux solides.
Solide.
En fait, de lave ou de cendre, en général de cendre ou de ponce. On va dire qu'une éruption importante, comme il y a eu au Pinatubo aux Philippines en 91, a fait 10 kilomètres cubes. C'est déjà important. Une éruption comme le Vésuve a peut-être fait 20 ou 30 km cubes. Santorin a fait 100 km cubes. Voilà. Donc ça, c'est des éruptions qui sont historiques. Il y en a eu une au Tambora, 100 km cubes. Or, une éruption, super éruption, fera non pas 10, non pas 100, non. Elle fera 1000 à 3000 km cubes. Donc, c'est des éruptions bien plus importantes qui n'ont pas eu lieu de façon historique et heureusement. Mais on en connaît des préhistoriques, on a des dépôts qui en témoignent. Donc, il est bien évident que si ça se reproduisait, on serait démunis. Heureusement, comme cette éruption est 1000 fois plus importante, elle est 1000 fois plus rare. Donc au lieu de se produire tous les siècles, elle se produit tous les 100 000 ans ou tous les millions d'années. Donc pour l'instant,
mais est-ce qu'elle est 1000 fois plus prévisible?
Ben non, justement, elle est 1000 fois moins prévisible. Ça va dans ce sens-là. Donc c'est vrai que ont été modélisés, par exemple, si une éruption type Yellowstone qui a lieu il y a 600 000 ans se reproduisait aujourd'hui, ça serait les États-Unis sous la cendre, tous les moyens de transport qui seraient bloqués, il y aurait 100 km autour de Yellowstone, une destruction type Hiroshima, type destruction nucléaire. Ça serait probablement des modifications climatiques sur l'hémisphère nord, les ports d'Hambourg et d'Anvers pris dans la glace. Donc c'est apocalyptique, il faut mieux pas y penser.
Une réduction très très nette de la température,
de l'insolation,
à cause de la couverture de cendres,
voilà, qui bloque le soleil. Donc c'est vrai que c'est apocalyptique, on pourrait rien y faire, donc pour l'instant, on ne sait pas faire. Peut-être que dans le siècle à venir, on trouvera une solution. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler un petit peu.
Bien sûr, allez-y.
On va faire un peu. Tout à l'heure, on a parlé de Jules Verne. Alors, Jules Verne, il y a 100 ans, il a dit des choses qui semblaient étonnantes, puis qu'il a eu raison. Si on joue les Jules Verne dans le 21e siècle, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager peut-être de purger des volcans, ou comme on pourrait également travailler sur des failles sismiques, c'est-à-dire les fluidifier, donc en injectant des matériaux ou en faisant des petites explosions locales qui feraient qu'au lieu de faire une grosse éruption tous les 1000 ans, on pourrait envisager des éruptions provoquées, alors que c'est à souhaiter ou pas. Alors c'est pas d'actualité, bien évidemment, mais ce n'est pas idiot comme idée, de même que fluidifier des failles au niveau sismique, c'est pas dans le sujet aujourd'hui, mais on pourrait envisager de faire plusieurs petits séismes au lieu d'un gros séisme imprévu, pour en plus fixer un peu la date.
Une sorte de vaccination volcanologique.
Voilà, avec des rappels. Alors je dis que c'est de l'anticipation, je dis bien ça aux auditeurs, bien sûr. Également c'est important de voir l'avenir et d'envisager des idées, c'est les idées qu'on a aujourd'hui qui se réaliseront demain.
C'est Sylvie Vergniol, on parle de Yellowstone qui concentre beaucoup de fantasmes, et des fantasmes cinématographiques notamment, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres d'autres volcans, notamment en raison de la proximité de villes. Je pense par exemple au champ phlégréen à Naples, qui présente un caractère de dangerosité particulier.
C'est sûr que les champs phlégréens, c'est vraiment près de Naples, c'est la banlieue de Naples, c'est en déformation depuis pas mal d'années, ça inquiète beaucoup les Italiens, ils le surveillent de très très près, et en ce moment, c'est ça qui inquiète les Italiens, beaucoup plus que le Vésuve, qui pourtant est aussi connu pour avoir été très dangereux. Mais le Vésuve est plutôt calme, et les champs phlégréens, par contre, beaucoup moins.
Alors les champs phlégréens, qui plus est, il y a une publication qui vient de sortir, et qui montre qu'il y a un certain nombre de signes de micro-séisme, un gonflement de la chambre magmatique, un changement dans la chimie des fumerolles. Vous pensez qu'effectivement c'est un sujet d'inquiétude, vous aussi, Jacques-Marie Barlanzef?
Alors c'est vrai que ce n'est pas d'actualité au jour près. Ça fait plusieurs années que les champs phlégréens sont suivis. Et c'est vrai que dans les environs de Naples, près de Pouzzoles, on voit le sol qui ne fait que monter et descendre. Donc on a par exemple des restes de colonnes romaines d'un ancien marché, où on voit des colonnes qui ont été immergées, qui ont été rongées par des coquillages, puis qui sont remontées, qui sont aujourd'hui sorties. Donc on a parfois des mouvements de sol.
Comme si la Terre respirait en quelque sorte.
Mais c'est tout à fait ça. Dans des mouvements de sol, de 1 à 5 mètres. Donc actuellement, il y a des mouvements. Parfois, ça se traduit par... ça s'arrête tout seul. Parfois, ça peut faire une éruption. Donc, on ne sait pas trop. Mais cette chose n'est pas... c'est pas tout d'actualité. Ça existe depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a des mouvements qui peuvent être inquiétants ou pas. Mes collègues italiens, bien sûr, surveillent.
Il y a d'autres volcans que vous avez en tête comme ça, qui pourraient être susceptibles de faire des dégâts importants. Vous en avez un autre, parce qu'on parle à part Yellowstone et les champs phlégréens, Jacques-Marie Barnzef.
Alors, si on parle un peu de ces super volcans, ces grosses calderas, par exemple, il y a à Toba, à Sumatra, il y a un volcan qui a fait une éruption majeure il y a 75 000 ans, bon, qui est toujours potentiellement actif. Il y a un volcan, le Taupo en Nouvelle-Zélande également, qui a fait une éruption majeure. Il y a des volcans au Japon, donc on va dire qu'il y a une dizaine de gros volcans qui pourraient faire des grosses éruptions et qu'il faut donc suivre de façon précise. Mais bien sûr, ça peut se faire dans 10 000 ans ou dans 100 000 ans. Parce que j'ai dit, le délai est mille fois plus élevé. Heureusement pour l'humanité, ça permet le temps peut-être de se retourner.
J'ai lu également en préparant cette émission que le changement climatique pourrait avoir un lien avec une forme d'intensification de l'activité volcanique. C'est quelque chose que vous confirmez l'un et l'autre, Jacques-Marie Barnzef ou Sylvie Arniel?
Disons qu'on sait que les volcans ont une influence sur le climat, c'est assez clair. Jacques-Marie a parlé de la baisse de température, donc le Pinatubo qui était une grosse éruption en 91 aux Philippines, c'était moins 0,6 degrés Celsius, donc c'est énorme pour le climat, la circulation atmosphérique change. Donc pendant une année, donc effectivement, ça peut aussi changer la pluie parce qu'il y a des particules solides et si suivant la taille, les gouttes de pluie peuvent être formées. Donc ça peut provoquer des pluies torrentielles, donc avec tous les dégâts que ça peut entraîner.
Pour la petite histoire, on suppose même que l'éruption du Laki, donc en Islande, à la fin du XVIIIe siècle, qui a été une éruption très 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 violente, un quart de la population islandaise est décédée suite à cette éruption, et ça a changé durablement le climat de l'hémisphère nord, et donc en créant des mauvaises récoltes, un très mauvais temps, etc., pourrait avoir une influence finalement même en France, jusqu'en France, dans la Révolution française, en disant que finalement, après des années de vaches maigres, de mauvaises récoltes liées à la baisse de la température, et les paysans se sont révoltés, et donc le cours de l'histoire a changé.
En tout cas, le Laki, c'est une très grosse éruption, c'est la plus grosse éruption lavique historique. Ça s'est passé en 1780. Une fissure de 25 km qui a bavé pendant 9 mois, qui a produit une quinzaine de kilomètres cubes de lave. C'est énorme, c'est la plus grosse éruption lavique. Et en même temps, des quantités de gaz, d'aérosols qui se sont propagés sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Donc, toutes les relevés météo ou des relevés de paroisses ou de mairies montrent qu'il y avait un climat pas bon, qu'il y avait des odeurs mauvaises, qu'il y avait des nuages. Donc des étés pourris, donc des récoltes mauvaises. Et ça, on a les chiffres des vendanges, des récoltes, des quintaux de blé. Ça, il y a des agendas qui sont très très précis. Et également, on note une surmortalité dans toute l'Europe de l'Ouest à cette période-là. Donc il y a eu effectivement une mauvaise période. Donc bien sûr, la surmortalité, c'était lié aux gens les plus faibles, les bébés, les enfants, les personnes âgées, respirer, qui étaient peut-être déjà asthmatiques, mais qui ont mal respiré, qui étaient en plus mal alimentés. Donc c'est vrai que, alors après, ça, les historiens pourront choisir, mais quand effectivement les gens mangent pas à leur faim, sont malheureux, n'ont plus rien à perdre, ben effectivement, c'est le terrain est propice pour une révolution, et c'est ce qui s'est passé.
Et pour conclure, un mot aussi, Jacques-Marie Baranzef, sur ce lien qui pourrait y avoir entre le changement climatique et l'intensification de l'activité volcanique, notamment avec la fonte des glaciers, du coup la perte de masse continentale, l'augmentation de la masse océanique et un ajustement qu'on appelle isostatique.
Alors, Sylvie a bien décrit l'effet volcan sur le climat qui est important, elle a raison bien sûr. Dans l'autre sens, c'est moins évident. C'est vrai que le changement climatique dont on parle beaucoup aujourd'hui pourrait un petit peu modifier les masses de glace dans l'hémisphère, enfin au nord ou au sud. Donc certains volcans sous-glaciaires comme en Islande pourraient être favorisés dans leurs éruptions. Ça reste modeste et c'est vrai que autant, on va dire, la société humaine peut modifier le climat, autant elle n'a pas le pouvoir, on va dire heureusement, de modifier les volcans. Il faut bien comprendre également que si le climat change à tel point que l'espèce humaine doit disparaître, la Terre continuera et les volcans aussi. Je veux dire, voilà, c'est dans ce sens-là que ça marche.
Les volcans sont un peu plus robustes et avec une durée de vie un peu plus élevée que la nôtre. Et pour conclure, un mot de conclusion, parce qu'on parle des volcans comme source de calamité, mais les volcans peuvent tout autant constituer une ressource. Et notamment, il y a plusieurs pays qui ont utilisé l'activité volcanique sur leur sol pour produire de l'énergie et pour produire de la géothermie.
Oui, l'Islande est un excellent exemple, parce que la plupart de l'énergie en Islande est due à des centrales géothermiques. Le sol reste chaud à cause de l'activité volcanique. Et donc, en faisant circuler de l'eau à l'intérieur, l'eau se réchauffe et donc produit de l'électricité.
Ça, c'est une activité, c'est une technique qu'on connaît bien, qu'on maîtrise complètement. Et c'est voilà. Oui. L'Islande, il y a également le Costa Rica, les Philippines. Ça se développe de plus en plus. Les techniques sont de plus en plus précises.
Alors, faut bien comprendre que malheureusement, l'énergie du volcan, on peut pas la capter. Elle est trop importante. C'est des milliers de fois une bombe atomique. En plus, c'est soudain. Et nous, nos sociétés, on a besoin d'énergie régulière. C'est ça, on n'en veut pas un coup, puis un coup oui, un coup non. Donc, on va dire capter l'énergie des volcans, pour l'instant, c'est illusoire, voire Jules Verne dans un siècle. Par contre, effectivement, capter la chaleur du sol et du sous-sol autour des volcans, voire dans d'autres régions, je crois que si sous la maison de la radio, on capte également de la géothermie, mais elle est plus importante dans les régions périvolcaniques. Donc ça, c'est important, et surtout cette énergie qu'on appelle haute énergie, car l'eau sort vapeur à plus de 100 degrés, elle peut faire tourner des turbines, donc faire de l'électricité. Donc ça, elle est importante, c'est pas celle qui se passe en France métropolitaine. Alors effectivement, c'est une énergie prometteuse, qui doit être développée. Pour l'instant, elle reste encore très faible, c'est moins de 1%. Il faut bien comprendre, ça ne va pas non plus devenir 40%, ça ne va pas remplacer du jour au lendemain les hydrocarbures, le nucléaire. Bon, mais si on passe déjà de 1 à 2% ou 3%, ça serait déjà énorme. Donc bien sûr, toutes ces énergies nouvelles, renouvelables, néanmoins polluantes, mais on doit faire attention, eh bien, il faut les protéger, il faut les développer, et effectivement, beaucoup de pays commencent à le développer, l'Amérique centrale notamment, c'est vrai, le Salvador, le Costa Rica, mais également les Philippines, bon, beaucoup de pays produisent de la géothermie, et par exemple l'Islande en produit beaucoup également.
Philippines, j'ai lu que 20% de leur énergie était issue effectivement de centrales à géothermie. Et d'autres secteurs sur lesquels on peut espérer pouvoir exploiter la volcanologie, notamment par exemple pour les matières premières, c'est quelque chose qui commence à se développer un peu ?
Alors, ça moins, hein. C'est vrai que il y a des métaux associés au volcanisme, mais des volcans anciens, hein. C'est vrai que par exemple, tous les gisements d'or, d'argent et de cuivre du Chili, c'est des volcans anciens, mais qui étaient de l'ère secondaire, donc en plus de 100 millions d'années, donc c'est pas lié au volcanisme actif. Bon, c'est vrai que les pierres de volcans peuvent être des pierres de construction, etc., mais ça reste local. Il y a certainement certains gisements de diamants sont liés également d'anciens gisements volcaniques, mais il n'y a pas une liaison directe entre le volcan et l'utilisation. Néanmoins, le volcan, quand même, fertilise des régions entières, mais ça, il le fait tout seul, pas besoin de l'utiliser. C'est vrai que les cendres contiennent du potassium, du phosphore, du magnésium, du calcium, donc ce sont des gros engrais naturels. C'est pour ça que beaucoup de gens vivent près des volcans, parce qu'ils ont des terres très fertiles. Et finalement, si on fait le bilan, tout à l'heure vous disiez, est-ce que le volcan est nocif ou au contraire utile ? Ben, pour un paysan javanais, il dit, ben, effectivement, le volcan, il tue une fois par siècle, mais il me nourrit tous les jours. Donc il a vite fait le calcul. C'est le bon sens du paysan et du cultivateur.
Eh bien, le bon sens du paysan javanais sera le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, Sylvie Vergnol, Jacques-Marie Baranzef, d'avoir accepté notre information. Relance l'appel de Jacques-Marie Baranzef à nos jeunes auditeurs étudiants, lancez-vous en volcanologie, c'est un métier d'avenir, ce sont des métiers d'avenir. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous retourner vers le manuel de volcanologie 5e édition de Jacques-Marie Berdanzef qui a été publié chez Duno. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de la méthode scientifique pour une autre vidéo embarquée de la semaine de notre partenaire du CNRS Images. Tous les volcans se ressemblent, c'est un film de 2008 que vous pouvez trouver donc sur la page de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lezen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Emmanuel Morse-Duncan et au droit d'auteur Paul Simonacci. Demain, nous parlerons de robots, mais pas n'importe quel robot, nous parlerons des robots mous. Alors vous allez me dire, pourquoi faut-il que les robots deviennent mous et surtout comment faire ? Eh bien, rendez-vous demain, vous saurez tout sur la robotique molle. Dans un instant, deuxième LSD de la semaine, la série documentaire à chaque jour son lieu cette semaine. Aujourd'hui, Toulouse et l'université du Mirail, c'est une série de Camille Jusat et de Perrine Kervran. Nous, on se retrouve avec les robots mous, donc demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.